Nous arrivons à la 19e heure de la Bible en 24 heures. Et ce soir, nous nous proposons de voir les épîtres de Paul. Nous avons déjà vu la semaine dernière la lettre ou l'épître de Paul aux Romains. Paul était le grand persécuteur de l'Église du Nouveau Testament, mais c'est aussi le plus beau trophée de Dieu, car il a été converti sur la route de Damas et il est devenu peut-être le plus grand apôtre de l'histoire de la foi chrétienne. Il a notamment écrit presque la moitié des livres qui composent le Nouveau Testament. Combien il y a de livres dans le Nouveau Testament? Qui dit mieux? 28 ici, 31, 50 dollars, non. Il y en a 27, donc tu n'es pas loin. Combien il y en a dans toute la Bible? 66. 39 plus 27, il y en a 39 dans l'Ancien Testament. Et sur les 27 du Nouveau Testament, Paul en a écrit combien? Vous pouvez me rappeler la question? La question, il a écrit en fait 13 des 27 livres du Nouveau Testament. Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament et 13 de ces 27 livres ont été écrits, 13, peut-être 14, si l'on considère la lettre aux Hébreux comme étant ou pas une œuvre de Paul. Vous vous souvenez, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, il y a des lettres qui sont adressées à combien d'églises? 7 églises. Les lettres aux 7 églises du chapitre 2 à 3. Il est intéressant de remarquer qu'en fait, Paul a envoyé des lettres à 7 églises aussi. Il a écrit à l'église de Rome, il a écrit à l'église de Corinthe, il a écrit à l'église de Galatie. Alors la Galatie, c'est pas une seule ville, une seule église, c'est une région, mais il a écrit aux églises de cette région. Il a écrit à Éphèse, à Philippe, à l'église de Colosse et à l'église de Thessalonique. Donc ça nous fait, il a fait 2 lettres à Corinthe et 2 lettres aux Thessaloniciens. Il a écrit 2 lettres à 2 pasteurs qui s'appelaient comment, ces 2 pasteurs? Timothée et Tite, voilà. Il a écrit 2 lettres à Timothée et 1 lettre à Tite. Et puis il a écrit une carte postale. À qui il a écrit la carte postale? Jude? Non. Philémon. Voilà. Et peut-être, donc, certains pensent que c'est lui qui a écrit la lettre aux Hébreux. La seule chose, c'est que normalement, Paul s'identifie dans ses lettres. Et là, dans la lettre aux Hébreux, il n'y a pas d'identification de l'auteur. Mais il parle de Timothée, qu'il a l'air de bien connaître. Et certains pensent qu'en fait, ça pourrait être bien une œuvre de Paul. Peu importe. On a déjà vu la lettre de Paul aux Romains, parce que c'est l'écrit fondamental de la doctrine de la foi chrétienne. Et on sait, d'après un passage que Paul a écrit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, 2 Timothée 3,16, que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est comme si elle est respirée à l'extérieur par Dieu. Elle est théopneustos, soufflée par Dieu. Et elle est utile pour plusieurs choses, pour enseigner, c'est ce qu'on appelle la doctrine, pour convaincre ou critiquer l'attitude, en anglais reproof, pour redresser, c'est-à-dire corriger, correction, et pour éduquer dans la justice, instruction in righteousness, pour que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Si on veut être prêt à faire les œuvres de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. et il n'y a pas un passage qui soit inutile dans la Bible. On va donc passer en revue les différentes lettres écrites, les différents textes de l'apôtre Paul. Il y en a une douzaine. On va donc être obligé de les survoler rapidement. Tout d'abord, la première lettre de Paul aux Corinthiens. Là, Paul va parler des problèmes dans l'Église, dans une Église particulière. Alors, on va simplement, en passant, noter les termes savants pour parler de ces points de doctrine. Quand on parle de la doctrine de l'Église, le terme qu'utilisent les étudiants dans les écoles bibliques ou dans les séminaires, c'est l'ecclésiologie. Donc si vous voulez impressionner vos amis chrétiens, vous leur parlez d'ecclésiologie, ça veut simplement dire ce qui se passe, la doctrine de l'Église. La situation géographique de la ville de Corinthe, qui était sur un petit bras de terre qui reliait la Caïe du reste de la Grèce, faisait que c'était une ville pleine de passages. Il y avait un grand essor économique. Dès le 1er siècle, il y avait près de 700 000 habitants. Et à l'époque, on disait, pour dire qu'on se livrait à la débauche, on disait qu'on se corinthianisait. Tellement la ville était connue pour cette prospérité qui avait conduit à la débauche, aux boîtes de nuit, aux tavernes, à la prostitution, à tout un tas de corruptions. Il y avait aussi, parce qu'il y avait des gens de tous les pays, il y avait beaucoup d'influences, de philosophies variées, de religions variées. Et il était né une église dans la maison d'Aquilas et Priscille, ce couple dont nous avons déjà parlé, qui fabriquait des tentes comme le faisait Paul. Et lors de son deuxième voyage missionnaire, aux alentours de l'an 51, Paul s'était joint à eux. Il était demeuré là-bas pendant 18 mois. Il enseignait dans une synagogue et puis dans une maison à côté. Et il y a un autre apôtre ou un autre enseignant qui s'était joint à eux, c'était le fameux Apollos qui les avait aidés à fonder cette église. Paul avait entendu parler des problèmes qui se passaient dans l'église de Corinthe. Il leur avait déjà envoyé une première lettre que nous n'avons pas gardé, et il lui avait répondu en envoyant une délégation. Dans 1 Corinthiens 16, il est question de trois personnes, de deux personnes, Stéphanas et Fortunatus, qui étaient venus parler à l'apôtre Paul. Il y avait aussi des problèmes. Finalement, on a cette première lettre qui est en fait une réponse à ces problèmes que Paul a écrit probablement en 55 depuis la ville d'Éphèse. Éphèse, c'était sur la Turquie occidentale actuelle, l'Asie mineure. Et donc, Paul a entendu parler de problèmes dans cette église. Et c'est intéressant de noter, souvent on dit on a des problèmes dans l'église aujourd'hui. Si seulement on avait comme l'église du 1er siècle, et dès la fin du 1er siècle, cette église qui avait pourtant été fondée par l'apôtre Paul lui-même était l'objet de graves problèmes. Alors il y avait des divisions dans l'église, vous vous souvenez, il y avait des gens qui disaient qu'ils étaient d'Apollos, d'autres qui disaient de Pierre, Céphas, d'autres de Paul, d'autres disaient nous on est vraiment de Jésus, on appartient à Jésus. Il y avait des désordres dans l'église, il y avait même un cas d'inceste, il y avait des litiges qu'ils portaient devant les tribunaux civils au lieu de les régler entre eux, il y avait beaucoup d'immoralité, et Paul va envoyer des réponses à leurs questions, des questions sur le mariage et le célibat. Il dit en essence que pour être dans le ministère, c'est mieux d'être célibataire. On pense que lui a dû être marié, peut-être qu'il était veuf, mais que si, dans le chapitre 7, si on brûle d'avoir des relations avec le sexe opposé, il faut alors se marier. Et ça, c'est le meilleur passage pour nous montrer que les relations sexuelles doivent être réservées au cadre du mariage. Il a parlé des viandes sacrifiées aux idoles, c'était un cas de conscience, des gens se disaient on peut manger la viande qui a été présentée au temple parce qu'après elle est moins chère, et d'autres disaient non, on participe au culte des idoles si on fait ça. Il parle de la vie chrétienne comme d'une course qu'il faut courir avec endurance, chapitre 9. Il parle notamment des dons spirituels dans les chapitres 12 et 14. Et au milieu de ces deux chapitres, il y a un grand chapitre sur qu'est-ce que l'amour agapé, cet amour divin. Et en essence, les dons spirituels que nous considérons être des choses valables aujourd'hui doivent être toujours exercés dans le cadre de cet amour. Si on utilise les dons spirituels pour se disputer, on n'a rien compris à la Bible, on n'a rien compris à la volonté de Dieu. Les dons spirituels sont en fait des outils qui servent au ministère. Et puis au chapitre 15, il est question de la résurrection, de l'évangile. C'est au chapitre 15 que l'on a le meilleur condensé de l'évangile. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Qu'est-ce que ça veut dire, évangile? Bonne nouvelle, hein? En grec, you ou évangile, angelos, et c'est l'annonce, la nouvelle. Mais voilà la définition qu'on trouve au début du chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Voilà, maintenant verset 3. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Voici le condensé d'évangile. Christ est mort pour nos péchés selon l'Écriture. Et il a été vu par Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis par les douze apôtres. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, et dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, et puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. L'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon ce que la parole et prophétie de l'Ancien Testament annonçaient, et que Christ est ressuscité et qu'il a été vu par des hommes dignes de foi. Ça, c'est l'évangile. Il n'est pas question ici des miracles que Jésus a fait. Il n'est pas question de l'enseignement de Jésus. Il est question de ce que Jésus s'est sacrifié comme l'Écriture l'annonçait et qu'il est ressuscité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Avec tout ce que ça suppose et révèle. Et on a vu en survolant Romains que ça voulait dire que le salut se passait par la foi, qu'on était justifié, déclaré acceptable par Dieu sous la seule base de notre foi en cette vérité de l'Évangile. Dieu, Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Que ça se traduisait par une sanctification, et puis éventuellement ça se traduira par une glorification. Et puis, dans toutes ces lettres, on voit que Paul est en relation avec des tas de chrétiens dans les différentes villes où il a implanté des églises, où il voyage. Il est toujours en train de ramasser des fonds pour les plus démunis, souvent pour les chrétiens de Jérusalem, qui étaient persécutés, et on est frappé de voir toute l'importance des relations dans la vie de Paul. Ce n'était pas un théologien isolé, c'était quelqu'un qui était au contact des hommes et des femmes et qui vivait l'Évangile. La deuxième épître aux Corinthiens, là, Paul va défendre son ministère et ça fait toujours partie de la doctrine de l'Église. Cette première lettre avait été mal reçue par ceux qui critiquaient Paul. Il leur avait envoyé son collaborateur Timothée, qui était revenu avec de mauvaises nouvelles. Et puis, il avait écrit donc cette lettre pour défendre son ministère, parce que il y avait à Corinthe des soi-disant super apôtres qui disaient qu'en fait, Paul, il n'avait pas le droit de... Il n'y connaissait rien. D'abord, c'était quelqu'un qui n'était pas impressionnant physiquement. Quand il parlait, il n'était pas du tout impressionnant. Et Paul va être obligé de se défendre. Et on pourrait penser que c'est un peu égoïste ou un peu orgueilleux de la façon dont il se défend. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il comprend qu'il doit défendre le messager pour que le message ne soit pas attaqué. Et ça nous parle, nous aussi, lorsque nous partageons le message de l'Évangile, il faut que le messager soit en harmonie avec le message. Certes, nous sommes comme des vases vides, des vases de terre qui portons en nous un trésor, le trésor de l'amour de Dieu révélé dans la parole de Dieu. Mais on ne peut pas espérer toucher les autres si notre vie est en désaccord avec notre message. Il doit y avoir une harmonie entre ce que nous annonçons et ce que nous vivons. Et Paul veut montrer qu'il n'est pas quelqu'un d'intéressé. Certains l'accusaient de chercher à... Il avait des intérêts bassement matériels, qu'il essayait d'avoir de l'argent. Il dit non, je n'ai jamais rien demandé aux églises, j'ai même eu un métier, son métier de fabricant de tentes pour subvenir à mes besoins. Et il défend son autorité d'apôtre. Un apôtre c'était quelqu'un qui avait vu le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui on parle d'apôtre, on peut avoir des apôtres dans le sens où il y a des personnes qui peuvent implanter un grand nombre d'églises, qui peuvent avoir une influence qui dépasse l'église locale ou l'église nationale. Mais historiquement parlant, les apôtres, c'est ceux qui avaient connu, vu le Seigneur Jésus-Christ et qui avaient aussi été l'objet de... qui avaient été capables d'accomplir des actes miraculeux. Alors Paul, il avait vu... Quand est-ce qu'il avait vu Jésus-Christ? Il n'avait pas vécu, il n'était pas un des disciples. Voilà, il l'avait vu brièvement parce qu'en fait il avait été aveuglé sur le chemin de Damas. Et il est dit par ailleurs qu'il a reçu un enseignement lorsqu'il s'est isolé. On pense qu'il a passé plusieurs années en Arabie. Il avait une relation intime avec le Christ et il a comparé ce qu'il avait reçu après, lorsqu'il est allé voir les apôtres Pierre, Jacques, et là il s'est aperçu qu'en fait c'était bien le message de Christ qu'il avait reçu. Il fait part aussi des souffrances qu'il a dû endurer pour annoncer, pour vivre, pour apporter l'Évangile. Ces personnes qu'il accusait de malhonnêteté, d'incapacité, d'orgueil, en fait, ne pouvaient pas refuser d'admettre tout ce qu'il avait souffert pour le Christ, comme le Christ l'avait dit dans le livre des Actes, au chapitre 9. Le Seigneur Jésus avait dit à Ananias, je vais lui montrer tout ce qu'il va devoir souffrir. Et Paul a beaucoup souffert. Et donc c'est une façon de montrer qu'en fait le verset clé, c'est qu'il dit nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. C'est Jésus qui le contraignait à annoncer la bonne nouvelle. Et puis, il parle encore à la fin d'une... Il invite les Corinthiens à faire comme les Macédoniens pour aider, par leur don, l'Église de Jérusalem. Et il dit qu'en fait, sa faiblesse physique, c'est la source de sa puissance. C'est parce qu'il est faible qu'en fait, Jésus-Christ peut l'utiliser et qu'il est fort. Il se vide de sa puissance, de ses ressources personnelles pour dire qu'il est complètement faible, mais que c'est Christ qui agit en lui. L'épître aux Galates, donc les habitants de cette région d'Asie mineure. Comme la lettre de Paul aux Romains, le sujet est voisin de la lettre de Paul aux Romains, il s'agit de définir le salut comme étant quelque chose que l'on obtient par la foi et non par les œuvres. La doctrine qui parle du salut, en termes savants, ça s'appelle la sotériologie. Juste pour que si vous tombez sur ce thème, vous sachiez ce qu'il veut dire. Et ce que Paul prêche, c'est que nous sommes vraiment libérés de l'esclavage de la loi. Ces Galates, Paul les avait évangélisés lors de son premier voyage missionnaire, c'est dans le livre des Actes, chapitres 14 et 15. Et il avait fait une étape là aussi lors de son troisième voyage. Mais là aussi, il y avait des faux frères qui étaient passés après lui et qui disaient « C'est bien beau ce que vous a dit l'apôtre Paul, mais pour être vraiment chrétien, il faut aussi obéir à la loi de Moïse. Et il faut notamment pour les hommes obéir à la circoncision, subir la circoncision. » Et Paul s'emporte. Il se fâche après eux. Il leur dit, je m'étonne que vous, verset 6 du chapitre 1, si vous voulez vous y tourner, page 212 dans la Bible à la Colombe, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et donc, en fait, l'évangile qui était annoncé par ces faux prophètes, qui disaient qu'il fallait non seulement croire à ce qu'avait fait Jésus-Christ, mais qu'il fallait aussi obéir aux 10 commandements et notamment aux rituels qui avaient été ajoutés par les hommes, notamment la circoncision. Dieu les avait prescrits, mais ils n'étaient plus indispensables. Et ils disent que ces gens-là, en fait, il n'y en a pas d'autres, verset 7, non pas qu'il y en ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Et il dit, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit sous le coup d'une malédiction. C'est intéressant parce que les Mormons, plus exactement, disent qu'il y a un ange qui a déposé des tablettes qui ont été traduites par Joseph Smith et que pour être sauvé, il faut obéir à ce nouvel évangile qui a été annoncé par un ange. Donc ça, c'est un passage que les Mormons essaient d'escamoter. Nous vous le répétons, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Et plus loin, il leur dira, attendez, je cherche le passage, qu'ils ont commencé par la grâce, est-ce qu'ils veulent continuer par la loi? Et ça, ça peut être notre tendance, c'est la tendance humaine. On aime bien, on vient à Christ, on est heureux de savoir qu'on peut venir à lui par la grâce, qu'on rien en nous ne mérite son salut, son amour. Mais notre tendance, c'est à essayer d'attraper un peu de gloire pour nous-mêmes. Et comment on fait ça? En obéissant à un code extérieur d'attitude, de conduite. Et on est prêt à admettre que c'est par la foi, mais on dit c'est quand même bien si on vient le mercredi soir à l'étude biblique, le dimanche matin au culte, si on va à la réunion de prière, si on lit sa Bible tous les jours, si on a un temps de... Et toutes ces choses sont bonne chose en elle-même, sauf si on commence à se fier à ces choses pour notre relation avec Dieu et notre salut. Et c'est ce qui se passait avec les Galates. Ils avaient commencé à dire, c'est bien beau, c'est vrai, mais la loi de Moïse, c'est quand même quelque chose. Essayons d'obéir à la loi. Et là, il raconte aussi comment il a passé du temps, 3 ans, où il a reçu un enseignement de Dieu directement, comment il a rendu visite aux apôtres à Jérusalem. Il nous parle aussi, Galates 2.20, une vérité un peu difficile à saisir, à comprendre, mais il nous explique en fait, lorsque Christ a été crucifié, si nous venons à lui par la foi, alors mystiquement, mais réellement, nous avons été crucifiés avec lui. Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul le dit pour lui-même, chacun de nous peut le dire. Et s'il y avait une seule personne à sauver, ce verset s'appliquerait aussi à la personne. Je suis crucifié avec Christ, le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. S'il y avait une seule personne à sauver, Jésus-Christ serait mort sur la croix pour sauver cette personne. Il fait une comparaison, c'est au chapitre 3, au début du chapitre 3, qu'il s'emporte là. Il dit, aux Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Donc il leur dit, est-ce que vous avez été sauvés par la foi ou est-ce que vous avez été sauvés parce que vous avez obéi à la loi? Sous-entendu, vous le savez bien, c'est seulement par la foi que vous avez été sauvés. Êtes-vous tellement insensés, après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? C'est ce qu'on disait, on peut venir à Christ par la foi et après essayer d'accomplir des bonnes œuvres pour mériter son amour, alors qu'en fait, rien ne peut mériter son amour. Tout ce que l'on peut faire, c'est venir à cet amour. Donc là, c'est la vraie liberté, c'est pas dans l'esclavage à la loi, c'est dans la foi à Christ. C'est le thème de Romains qui est repris. Là, il utilise... Pour cela, une comparaison intéressante. Dans l'Ancien Testament, il compare Agar et Sarah. Il avait été promis un fils à Abraham. Et il y avait un enfant qui avait été conçu par Abraham et Agar, sa servante, ou la servante de sa femme. Et lui, il est appelé l'héritier selon la chair. Ce n'était pas le plan de Dieu, ça c'était le plan de secours que le couple avait trouvé. Et par contre, celui de la femme libre, c'est l'enfant de la promesse qui est arrivé à Sarah malgré son âge avancé, le fait qu'elle avait dépassé depuis longtemps l'âge de procréer. Et il compare ces deux aspects, la chair et l'esprit. Il nous dit que verset 17 ou 16, qu'il faut marcher par l'esprit et ainsi ne pas accomplir les désirs de la chair. La semaine dernière, j'avais parlé du décollage des avions, en disant qu'en fait, on avait toujours en nous cette loi de péché, dans notre vieille nature, cette loi qui voulait nous faire tomber, et qu'il fallait une loi qui s'impose à cette, qui contrebalance cette loi qui veut nous faire tomber. Ça, c'était la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Et quelqu'un m'avait dit, mais est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on a décollé, on a toujours la victoire? J'ai dit non, la pesanteur, elle est toujours là. Et si vous avez des ratés dans votre moteur, l'avion va redescendre même brutalement au sol. Et donc, il faut entretenir ce vol, et c'est ça qu'on appelle marcher selon l'esprit. Ça veut dire ne pas nourrir notre chair, ne pas nous complaire dans le péché, ne pas vivre dans le péché, c'est ce que Paul dit, moissonner de la chair la corruption si on sème à la chair. Il nous parle aussi du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est point contre de telles choses et il oppose les fruits de l'esprit, aux œuvres de la chair. Juste avant, verset 19 du chapitre 5, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, la discorde, jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, etc. Et il avertit que ceux qui se lèvent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Un passage, une lettre très forte aussi, qui est une lettre de doctrine sur comment être sauvé et comment vivre la vie. Un rappel, Paul commence toujours ses lettres, ses textes par de la doctrine, et puis il passe à des applications pratiques. Et c'est toujours satisfaisant parce que la théorie c'est bien, mais on veut... Donc la lettre de Paul aux Éphésiens écrite en prison en l'an 60, envoyée à ses amis de l'église d'Éphèse en Asie mineure. On peut visiter aujourd'hui les ruines d'Éphèse. Il a laissé là Priscille et Aquilas. Encore une fois, on les rencontre tout au long du livre des Actes et dans les épîtres de Paul. C'était des bons amis qui étaient toujours en train d'ouvrir leur maison pour enseigner la parole de Dieu. Cette ville était célèbre, c'était une grande ville aussi. Elle avait un grand temple païen dédié à la déesse Diane. Paul, au cours de son troisième voyage, va y rester 3 ans. Et toute la Turquie occidentale d'aujourd'hui, l'Asie mineure, va être touchée par son ministère. On pense que c'était peut-être une lettre circulaire qui devait passer d'église en église une fois qu'elle avait été lue. Un passage très important, c'est 2, 8, 9 et 10. C'est le chapitre 2, versets 8, 9 et 10. On va parler de Christ étant la tête de l'Église dans cette lettre. Donc des fois on parle de doctrine comme étant de la christologie, Christ, l'étude de Christ, de la doctrine de Christ. Et il revient sur le salut par la grâce. Il nous dit que au tout début, que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et ça aussi, ce sont des réalités que nous avons peut-être du mal à saisir, mais quelle que soit notre situation terrestre, en fait, si nous sommes croyants, nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Notre esprit est déjà en position de victoire. Et le chapitre 2, il va reparler du salut par la grâce avec ses versets 8, 9 et 10 qui sont importants de mémoriser. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, en grec c'est nous sommes son poème. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Beaucoup de doctrines à condenser. Encore une fois, ce n'est pas par nos œuvres, par nos bonnes actions, par l'observance de rituels que nous pouvons mériter le salut. C'est simplement par la faveur non méritée que Dieu nous accorde quand nous venons à lui par son Fils. C'est par la foi qu'on est sauvé. Et ça, c'est bien parce que personne ne peut se glorifier de dire, on ne peut pas dire, moi je vais à l'église tous les jours, je lis ma Bible. La Bible tous les 6 mois. On ne peut pas se glorifier, mais par contre, Il est important de savoir que ce salut, il n'est pas pour recevoir sans rien faire. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. C'est vrai qu'une fois qu'on est sauvé, pourquoi Dieu ne nous prend pas et on est tout de suite avec lui? En fait, c'est parce que Dieu a un plan. Il nous a façonné comme un poète écrit un poème. C'est très beau ça comme histoire, comme façon de décrire la façon dont Dieu nous crée. Et il nous laisse ici parce qu'il a du boulot pour nous. Quel que soit le boulot, ce qui compte, c'est de chercher à connaître sa volonté et à entrer dans sa volonté pour notre vie. Et ça ne veut pas dire nécessairement être missionnaire, être pasteur, ça peut être docteur, ça peut être s'occuper d'une famille, ça peut être ingénieur, mais témoigner. Ce qui compte, c'est de réaliser que notre vie ici-bas, elle est très courte et que la seule façon de la vivre, c'est de la vivre pour Dieu, pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous donne pas des joies terrestres, des joies... Mais c'est tout don excellent vient du Père des Lumières. Toutes les bonnes choses qui vous arrivent dans votre vie, sachez qu'elles viennent de Dieu. Il explique aussi que l'Église, en fait, il part du mystère. Le mystère, c'est pas comme quelque chose qu'on n'arrive pas à connaître, c'est quelque chose qui n'était pas révélé et qui maintenant est révélé. Que les païens sont appelés à faire partie du peuple de Dieu tout autant que le peuple juif. Ça, c'est... Là aussi, à la fin, il y a beaucoup d'applications pratiques avec des... Il parle des esclaves, comment les esclaves doivent vivre, comment les enfants doivent vivre dans la famille, comment le couple, l'homme et la femme doivent être, les rapports que doivent avoir l'homme et la femme, la soumission mutuelle, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumis chacun à votre mari comme au Seigneur, mais mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tout le monde en prend pour son grade. Et il est question de vivre dans cette soumission, dans cet amour mutuel. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Les travailleurs, là c'était à l'époque les esclaves, mais aujourd'hui on pourrait dire que les travailleurs doivent obéir à leur patron, travailler comme si c'était pour le Christ lui-même. Il y a un passage très important sur les armes du chrétien. Il nous fait savoir qu'en fait, on ne se bat pas notre vie et les difficultés qu'on rencontre, et surtout de nature spirituelle, elles sont de nature spirituelle. Même les difficultés matérielles, physiques, émotionnelles, nous ne luttons pas contre les hommes, contre la chair et le sang, mais contre des principes, contre les principautés, contre les pouvoirs, ça c'est le verset 12 du chapitre 6, contre les dominateurs des ténèbres ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi il faut prendre les armes de Dieu qui sont la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, comme chaussure les bonnes dispositions de l'évangile, de paix, le bouclier de la foi qui peut arrêter les traits enflammés du diable, le casque du salut, l'épée de l'esprit, encore une fois l'épée, on retrouve cette analogie dont on a parlé dimanche dernier, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il faut prier en tout temps, par toutes sortes de prières et de supplications, prier pour tous les uns pour les autres, pour tous les saints. Et Paul demandait même la prière pour lui-même, pour qu'il puisse annoncer l'Évangile. Cette lettre avait été écrite en prison. La suivante, l'épître de Paul aux Philippiens, a été aussi écrite en prison. Cette lettre, en fait, Paul écrit aux Philippiens, donc à l'église de la ville de Philippe en Macédoine, pour les remercier des dons qu'ils ont fait parvenir. Et il parle surtout de la vie en Christ et de la joie qui doit être la joie du chrétien dans toutes circonstances. Il avait, au cours de son deuxième voyage missionnaire, il avait répondu à l'appel du Macédonien. Vous vous souvenez, il avait une vision à Troas, acte 16. Et il avait fondé une église à Philippe, cette ville de Macédoine, Vous avez rencontré Lydie, une marchande d'étoffes précieuses. Et Paul veut leur d'abord les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Il dit que sa captivité, en fait, c'est une bénédiction parce que maintenant, il a un auditoire captif. Il passait du temps attaché à des gardes romains. Et quand on était attaché à Paul, on en prenait plein les oreilles toute la journée parce que Paul parlait de l'Évangile et ainsi et sa vie montrait aussi les effets de l'Évangile dans son comportement. Les personnes étaient touchées et par lui, toute la garde prétorienne, l'entourage de l'empereur romain commençait à devenir chrétien. Il y a plusieurs grands personnages qui se sont convertis à la foi. Et c'est ce que dit Paul. Il dit, on pourrait penser que c'est terrible, mais en fait, c'est une bénédiction parce que je peux partager l'Évangile. Et il dit qu'en fait, s'il avait le choix, il préférait mourir et être avec Christ, parce qu'il nous dit que mourir, c'est être avec Christ, mais il sait que sa vie présente est encore utile pour le Seigneur. Et il dit, à cause des personnes à qui il écrit, les personnes avec qui il est en contact, il préfère être encore vivant parce qu'il voit, et voilà l'occasion de les bénir. Il nous donne un grand passage sur la façon dont Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Il nous exhorte à ne rien faire par égoïsme, par rivalité, par vaine gloire, mais dans l'humilité à chercher le bonheur, le bien-être des autres. Et dans l'humilité, estimer que les autres vous sont supérieurs. Au lieu de considérer vos propres intérêts, regardez ceux des autres. Il dit que ça, c'était la pensée de Christ Jésus. Il nous dira aussi de ne pas nous faire de soucis, mais en toute chose, de remettre à Dieu nos tracas, nos soucis, et que la paix de Dieu, qui dépasse l'entendement, va mener la garde devant notre cœur. Il nous dit de nous réjouir en toutes choses. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et ça, c'est quelque chose qui devrait caractériser le chrétien, c'est la joie. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les tentations, les tourments, au fond de nous, il doit y avoir cette profonde joie. Et j'espère que c'est une réalité dans votre vie intérieure. Je connais malheureusement des chrétiens, des gens qui vont dans les églises et qui sont encore terrorisés par l'enfer, qui ont peur de Dieu, qui n'ont pas cette joie. On a dit la joie, c'est un peu comme la quille d'un navire. Même si le vent fait tanguer le bateau, là, il y a la course là, qui a commencé, la transatlantique, là, ils se prennent il y en a qui sont retournés. La joie du chrétien, ça doit être comme une quille qui nous fait passer dans les épreuves. On est peut-être secoué, mais on est toujours stable, toujours ferme dans cette joie, dans cette foi. Les Colossiens, c'était l'église qu'il avait fondée à Colosse. Là, il doit s'attaquer, et déjà, à la fin du premier siècle, il y avait déjà des hérésies qui voyaient le jour dans l'église du premier siècle. Et l'hérésie qui fleurissait à l'époque, c'est ce qu'on appelait le gnosticisme. Ça vient d'un mot, gnosis, ou la gnose. Aujourd'hui, on entend parler, des fois on voit des affiches dans des endroits pour des sectes. La gnose, c'est la connaissance spéciale. Autrement dit, il y a une philosophie un peu mystique, ésotérique. Et pour connaître Dieu, c'est pas donné à tout le monde. Il faut appartenir à un petit groupe. Il faut avoir cette connaissance spéciale. Ils empruntaient beaucoup au légalisme juif, à des religions orientales, et ils en étaient arrivés même plus tard, on le verra, Pierre va le dénoncer, l'apôtre Pierre, où il disait qu'en fait Jésus-Christ c'était pas vraiment le Fils de Dieu. Il y avait un homme, certes, mais il avait reçu l'Esprit Saint, et quand il était mort sur la croix, cet Esprit Saint était reparti. Et ça, c'est parce qu'il disait que on ne pouvait pas vivre dans la sainteté. Il disait qu'il faisait une distinction entre l'esprit et le corps. Pour eux, le corps, c'était de l'argile, de la matière, et il était normal que ce soit corrompu, donc il n'essayait pas de lutter contre l'immoralité, contre le péché. Ils se laissaient vivre n'importe comment, mais ils avaient cette connaissance qui leur avait été révélée par on ne sait pas par qui. Et Paul devait lutter contre cette hérésie qui était très, très acceptée, parce que c'était bien, on disait qu'il n'y avait pas besoin de faire d'efforts, il n'y avait pas besoin d'essayer de marcher selon l'esprit. On pouvait vivre comme un cochon, en sachant que notre esprit, lui, il avait une vie à part et qu'il irait au paradis avec Dieu. Paul insiste dans ce livre sur la prééminence de Christ, sur le fait que Christ domine toutes choses, que toutes choses ont été créées par lui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, verset 16 du chapitre 1, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Donc un grand passage sur Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et il voulait vraiment qu'ils vivent en fonction de cette relation avec Christ. Chapitre 3, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, et là encore il va l'inconduite, l'impureté. Et encore une fois, il dit que nous avons la puissance par l'Esprit Saint de surmonter ces choses. Il reparle de la famille chrétienne. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, travailleurs, travailleuses, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, pour leur plaire comme si c'était dans la crainte du Seigneur. Encore une fois, de la doctrine suivie par des applications pratiques. La première lettre aux Thessaloniciens, alors là, les lettres aux Thessaloniciens, là encore c'était une ville, Thessalonique, qui maintenant s'appelle Salonique, le grand port de la Macédoine aujourd'hui encore. Il avait là aussi fondé une église. Il avait été aidé par Silas ou Sylvain. Il y avait un problème. Paul leur avait... C'est en fait une information sur les derniers temps, sur ce qu'on appelle, un mot savant, c'est l'eschatologie. Eschatos, ça veut simplement dire « dernier » en grec. Donc les derniers temps. Et le message, c'est que Jésus revient bientôt. Ça, c'est un message qu'on n'entend plus beaucoup dans les églises chrétiennes, du moins en Europe, dans les églises traditionnelles. On sait que Jésus est mort sur la croix. Des fois, on s'arrête là. On oublie qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Représenter le Christ crucifié, c'est bien, mais un Christ vivant, c'est mieux, parce que c'est la réalité. Dans le Nouveau Testament, il est formidable de réaliser qu'un verset sur 25 versets parle du retour de Christ. Ce n'est pas une théorie fumeuse que l'apôtre Paul a détectée comme ça, trouvée intéressante. C'est un enseignement permanent, un enseignement constant. Christ va revenir. C'est donc le thème, ce retour de Christ, c'est le thème général de cette épître. Là encore, il parle du jour de la résurrection. Verset 13 du chapitre 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, afin que vous n'assistiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus avec lui tous ceux qui se sont endormis. Plus loin, il nous dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons levés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est très important, ça parle de notre statut. Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Après la mort, Jésus-Christ va venir chercher les saints. Avant de venir sur terre, ça va être l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement, c'est le mot qui dit que nous allons être saisis, nous allons être enlevés. En grec, c'est le mot arpazo, c'est comme un rapt. On va être kidnappé par le Seigneur du jour au lendemain. C'est les journaux, les romans qui sont populaires en ce moment, en français, comment on dit ? Laisser derrière ou laisser pour quand, la série des Left Behind, en français, je ne sais plus la traduction, ça parle de ça. La deuxième lettre, c'est pour corriger une mauvaise compréhension de ce qu'il avait dit. Il dit, en fait, Jésus-Christ va revenir, mais il n'est pas encore revenu, parce que certains avaient arrêté de travailler. Et ils attendaient que Christ vienne les prendre, les saisir. Et là aussi, c'est un encouragement à ne pas devenir paresseux, à dire « je me laisse vivre, je me fais entretenir par les gens ». De façon basique, il dit « si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas le droit de manger ». Ça, c'est contre la paresse de certains qui peuvent utiliser les doctrines chrétiennes pour justifier ça. Il n'a aucune pitié. Il dit que l'Église va être enlevée, il va y avoir l'impie qui va, une incarnation de Satan, c'est l'Antéchrist dont on reparlera, avant l'avènement du triomphal de Christ. Mais ce sont donc des passages qui nous éclairent beaucoup avec les livres de l'apôtre Jean, sur notamment l'Apocalypse et les livres de Matthieu sur la fin des temps, le discours de Jésus dans le chapitre 24 de Matthieu. Les lettres de Paul à Timothée. Timothée, c'était donc son jeune protégé qui était de la ville de Philippe, qui était devenu un peu son assistant, un pasteur assistant, et lui avait confié l'église d'Éphèse. Et apparemment, ce jeune homme était timide, il n'avait pas une grande force physique, et il avait besoin d'encouragement de la part de son mentor, Paul, et cette lettre nous donne des informations sur l'organisation et l'administration de l'Église. Ça fait partie des lettres qui traitent de l'ecclésiologie, encore une fois, la doctrine de l'Église. Verset 15 du chapitre 3. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc il donne des directives à son jeune protégé sur la conduite face aux faux docteurs, sur la prière, sur le rôle des femmes dans l'église, sur l'attitude avec les veuves, les anciens, sur la sélection des anciens, des diacres. Un tas d'éléments pratiques très intéressants. La deuxième épître de Paul à Timothée, il continue donc d'encourager son émule, son pasteur assistant. Il veut l'encourager à courir la course avec endurance et en restant mis à part pour Dieu. Il lui prépare aussi, il parle, c'est sa dernière épître, enfin non, c'est la. Il parle de. Au chapitre 4. Au chapitre 3, on a vu le verset 16, toute écriture est inspirée par Dieu, etc. Et il pense à sa mort prochaine, c'est sa dernière lettre. Pour moi, me voici déjà offert en libation, en sacrifice, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et donc ça, c'est un peu un testament de Paul. À Tite, l'épître à Tite, la suivante, c'est la même chose pour Tite qui était un pasteur en Crète. Et là aussi, Il veut l'encourager, lui donner des instructions pour sélectionner les responsables de l'Église. Deux versets, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est le verset 11 du chapitre 2. Et le verset 5 du chapitre 3, il nous a sauvés, encore une fois, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Finalement, l'épître à Philémon, une autre lettre qui a été écrite en prison, il demande à Philémon le pardon pour un dénommé Onésime, qui était un esclave qui s'était enfui de chez son ami Philémon. Et apparemment, cet Onésime l'avait aidé en prison à Rome, et Paul lui remet une lettre et il recommande à son ami Philémon, qui était un riche propriétaire, d'avoir pitié, de pardonner. Et il y a une très belle image de, en fait, cet Onésime, cet esclave, il me représente, il vous représente. C'est le pécheur qui va être pardonné par le Père parce que le Fils envoie une lettre en disant tout ce qu'il a pu encourir comme dette, mets-les sur mon compte. Nous pouvons venir au Père parce que Jésus dit toutes les dettes de péché de Pierre, d'Yves, d'Esther, de Nancy, je les ai payées, mets-les sur mon compte. Et j'avais eu l'occasion d'ailleurs de prêcher sur Philémon la dernière fois que j'étais passé à Montebelluna, je me rappelle. Et cette lettre, c'est donc la dernière des lettres dont nous allons parler ce soir. Et on a fait là un survol très rapide, mais on retrouve les thèmes communs à l'apôtre Paul. On voit d'abord la richesse de ses relations avec les uns, avec les autres, comment il était toujours dans la prière les uns pour les autres, comment il demandait la prière, comment il devait se battre pour que l'on s'en tienne au salut par la foi, comment il devait se battre contre les faux apôtres, et comment il était prêt à encourager ceux qui travaillaient avec lui. Et nous sommes au bénéfice de ces lettres. On appelle ça des fois les lettres pastorales, les lettres de Paul à Tite, à Timothée, qui s'adressent surtout aux responsables d'église ou à ceux qui s'engagent dans le ministère et qui sont d'une grande richesse. J'ai commencé la lecture d'un livre qui est paru il y a peu de temps, qui s'appelle Paul l'Avorton par Alain Decaux, le grand écrivain français contemporain, académicien. C'est un livre vraiment passionnant. Une fois que je l'aurai lu, je le mettrai à disposition à la bibliothèque. Mais la vie de l'apôtre Paul, c'est vraiment une vie fantastique. C'est une vie, parlons de vie d'aventure, Schwarzenegger, c'est rien du tout. J'ai hâte de rencontrer Paul. Et apparemment, il ne sera pas comme Schwarzenegger, ce sera un petit bonhomme, le front dégarni, parce qu'il brillait d'un type très intelligent, qui avait été formé aux meilleures écoles, et le Seigneur avait pris son zèle contre l'Église pour en faire le plus grand des apôtres. Voilà les lettres de Paul après la lettre aux Romains pour laquelle nous avions consacré toute une séance. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? N'en fabriquez pas si vous n'en avez pas. On va terminer par la prière. Oui, Seigneur, merci pour ta parole et surtout merci de nous l'avoir fait parvenir. Merci de l'avoir inspiré par ton Esprit Saint. Merci pour des personnes comme l'apôtre Paul qui ont tellement œuvré par ta puissance, Seigneur, pour bénir l'Église à son époque, mais aussi comment il a pu bénir jusqu'à aujourd'hui tous les hommes qui te cherchent. qui peuvent te trouver et qui voient dans ces lettres des explications très claires sur la doctrine, Seigneur, sur le salut par la foi, sur la justification, mais aussi sur la puissance de l'esprit pour marcher en vérité de vie. Seigneur, nous te remercions pour Paul, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, aide-nous à la mettre en pratique dans nos vies, pour que lorsque nous parlons en ton nom, Seigneur, notre vie soit une belle illustration des vérités que tu nous révèles, Seigneur. Merci pour ce soir, merci pour la présence de chacun. Je te prie de nous raccompagner et aussi de donner un temps de communion fraternelle ensemble ce soir. Par le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.